Et bienvenue à tous pour ce 50e podcast Manchester Devils. C'est un chiffre rond, un chiffre important. Et pour une fois, ce sera sûrement un podcast plus positif que négatif. Donc pour ce 50e podcast, on reviendra principalement sur les deux matchs de cette semaine face à Wolverhampton, la victoire 4-3 avec un but d'anthologie et la victoire cet après-midi 3-0 face à West Ham. On parlera aussi de la prise de pouvoir des jeunes avec une nouvelle photo iconique que je veux tous voir en photo de profil, que ce soit sur le forum ou n'importe où. Donc avant de commencer, bah, bien sûr, je vous rappelle que Manchester Devils, c'est aussi un site internet, vous pouvez venir sur le forum, un compte X, un compte Facebook, un compte TikTok. Et donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes. N'oubliez pas aussi sur YouTube, je fais à chaque fois la petite propagande, ça nous aide beaucoup, mais le petit follow, le petit commentaire et le petit like, ça nous aide énormément. C'est gratuit, ça nous met en avant et ça aide à faire grossir cette communauté fan de Manchester United ou fan de séances de psy. Donc, je suis accompagné cette fois, comme d'habitude, par les trois autres mousquetaires avec Jérémy.
Salut tout le monde.
Mohamed.
Salut à tous.
Et Adama.
Salut à tous.
Adama qui a pris un petit grade supplémentaire, c'est lui qui gère l'enregistrement de ce podcast, vu que je suis à l'hôtel. Donc,
En gros, si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que c'est de ma faute. Vous pourrez me tirer dessus.
Ah, il y a une petite évolution interne, là, t'es en stage.
Une promotion interne. Donc voilà, donc, on va commencer gentiment ce podcast par, comme d'habitude, l'info de la semaine ou l'info du jour. Donc, il n'y a pas eu tellement d'informations. Je n'ai pas tellement envie de revenir sur le scandale avec Rashford. Il nous a assez saoulés. On va essayer de passer à autre chose, malgré qu'il y a énormément de choses à dire. Donc, je vais essayer de rester positif et c'est une information qui est cette fois 100% sûre, c'est que l'approbation de l'acquisition des 25% de Radcliffe est votée. C'est bizarre, j'ai eu deux dates, le 4 et 5 février. Donc, le 4, c'est dimanche, donc ça m'étonne que les actionnaires fassent tellement de ce genre de vote-là. Mais entre aujourd'hui et demain, l'acquisition sera validée et dans la foulée, ce sera validé aussi par la Première Ligue, où c'est la FA, ouais, c'est la même chose, ouais, la Première Ligue qui va valider. Ça, c'est une formalité. Il n'y a aucun rebondissement à attendre vraiment là-dessus. Et donc, dans les prochaines semaines, très rapidement, on risque d'avoir des news sur le prochain directeur sportif. Les dernières informations, c'est que ce ne sera sûrement pas Paul Mitchell. Paul Mitchell qui sera peut-être dans l'organigramme, mais en tout cas pas directeur. Là, on parle même pas de directeur sportif, on parle de directeur au football, hein, donc c'est ça sûrement pas lui. Dana Schwartz, c'est très compliqué. C'était la cible prioritaire de Ineos. On n'a pas l'information sur est-ce que Omar Berada aime cette information-là. Le problème, c'est que c'est quasiment impossible de le faire, de l'avoir dès le mois de mars, je dirais. Donc, et on peut pas attendre le mois de mai pour travailler, donc ça sent vraiment pas bon. Et il y a certains noms qui arrivent, comme le directeur sportif du Bayern Munich. Il y a aussi le Dougie Friedman, que serait vraiment un prospect que j'aime pas du tout, de Crystal Palace. C'est un gars que j'avais marqué dans notre groupe privé. Hein, moi, ce que j'attends sur le prochain directeur sportif, c'est qu'il gère vraiment tout le sportif. Mais le premier job qu'il aura, ce sera de dégager un maximum de joueurs. Et c'est un gars qui est à Crystal Palace depuis 2017 et qui a 60 millions de ventes à peu près. À savoir que sur ces 60 millions de ventes depuis 2017, pour un club mid-première ligue, ce n'est pas beaucoup. Par exemple, il a foiré le dossier Zaha d'année en année en année en année pour le perdre gratos. Bref.
Puis tu as oublié de dire que dans ce prix-là, il y a le prix de Wan-Bissaka.
Sur les 60 millions, il y a 55, c'est Wan-Bissaka. Donc. Donc voilà, je suis vraiment pas fan. Alors il a deux trois bons coups comme Eze et Michael Olise qu'il allait chercher dans des plus petits clubs. Michael Olise, je crois que c'est Reading, Olise c'est QPR et Eze c'est QPR. Bref, donc Hugo Friedman est là. Il y a encore un autre nom que j'aime pas trop, c'est Ward de Liverpool, le dernier de Liverpool, pas celui qui a créé cette équipe là, hein, celui qui l'a succédé. C'est celui qui avait surpayé des gars comme Nunez, comme ça, je ne suis pas trop fan de ce choix-là. Donc. Et Ornstein a confirmé que ça pouvait être aussi un nom qu'on n'a pas du tout entendu, comme avec Berada, qui me plairait. qui me plairait assez bien, parce que hormis Ashworth, dans la liste, il n'y en a aucun qui me transcende. À part peut-être celui du Bayern. Je sais plus son nom. C'est un nom plus allemand que ça, ben, tu meurs. Mais avant ça, il était à Salzbourg et c'est lui qui a fait les premiers deals. C'est lui qui a fait rentrer Mané, Haaland, Naby Keita dans le giron Red Bull. Donc, pourquoi pas, on verra. Il y a aussi des bruits sur celui de l'Atlético Madrid. Donc, mais ça devrait bouger très rapidement. Et dernier point là-dessus, ça m'étonnerait vraiment que Ten Hag saute, hormis...
J'espère pas.
Hormis cascade de mauvais résultats.
Les rumeurs qu'on a, c'est que son avenir est lié au top 4.
J'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que, en fait, les rumeurs sont déjà... Alors déjà, c'est un peu dur, c'est un peu tard. Et le problème, c'est que tant qu'il est en course, tu fais quoi? Tu prévois rien du tout. Et tu peux pas. C'est-à-dire que nous, ouais. dès le mois de mars, il faut que ton coach il soit lock pour l'année prochaine. Parce qu'on va devoir travailler. Et cet été, il y a un énorme turnover à faire parce qu'on a... On en parlera après dans les jeunes, mais on a fait partir 11 joueurs cet hiver. Mais on en a vendu aucun, ça fait erreur.
Deux.
Qui
Non, j'allais dire, il y en a un, il y a Benfica, il est avec option d'achat.
Non, ouais, c'est Alvaro, option d'achat.
Il y a le jeune qui vient de faire partir, là, le Danois. Non, il n'est pas Danois, il est Norvégien. Danois.
Ah oui, Isak Hansen. Mais c'est parce que lui, c'était en fin de contrat en juin, donc on a anticipé.
Ouais. Et puis on va toucher 500 000
balles. On a aussi libéré un et qui a signé ACV. Mais...
Donc oui, il y aura énormément de travail, à savoir qu'on est... On est quand même emmerdé par le fair play financier, donc ça me fait toujours rire d'entendre ça comme excuse dans la bouche de Meurtot, parce que si on est dans le... c'est le fautif, quoi.
C'est tellement grâce à lui.
C'est grâce à lui. Et c'est...
Tant mieux, ça veut dire que maintenant, on peut travailler intelligemment.
Mais c'est surtout que cet été, on va devoir vendre des joueurs, et il y a des joueurs, il y a beaucoup de noms qui circulent, donc toi, des Sancho, ce sera pas facile à vendre. Greenwood, il se murmure qu'il y aura des offres, mais moi, je n'y crois pas.
Le problème de Greenwood, c'est qu'il y aura des offres, mais il n'y aura jamais des offres au prix auquel nous on veut. Donc la question, c'est est-ce qu'on va le lâcher à un prix inférieur que ce qu'on veut.
Moi, je pense qu'à 20.
Parce que tu peux en tirer 40 millions. Hein.
Les gars, vous êtes à 20. Déjà, vous n'êtes pas d'accord tous les deux sur le prix. Il y en a un qui double. Et je vous rappelle l'épisode Maguire-McTominay l'année dernière. Les prix de vente, les gars, on n'a rien lâché. Au point de garder les joueurs.
Là, on n'a pas le choix.
En fait, c'est soit tu le réintègres, soit tu acceptes de le vendre.
Et ils ne le réintègreront jamais comme premier move. Comme premier
ou alors, ouais, ou alors il repart en prêt avec une option d'achat ailleurs. Vous estimez pas.
T'as pas intérêt. Et pour moi, il partira pour 20 millions à peu près en Espagne. Mais bref, où je voulais en venir, c'est que cet été, il va falloir vendre. Pas seulement libérer des joueurs en fin de contrat. C'est clair que Martial qui part et les 13 millions en moins sur la marge salariale, c'est vraiment bien c'est vraiment bien pour le fair play financier. Mais ce qu'il faudra, c'est vendre Greenwood, par exemple, si tu le vends. Vu qu'il vient de ton académie, c'est 100% bénéf pour le fair play financier. Et il y a des joueurs comme McTominay, il y a pas mal de bruit où certains au club aimeraient le garder, mais financièrement, tu ne peux pas le garder parce que si tu arrives à le vendre 30-35 millions, et là, il a marqué quelques goals, peut-être tu vas atteindre les 40 s'il y a des pigeons. En fait, c'est 40 millions qui finissent directement dans tes caisses pour le fair play financier. Et pour finir sur l'information du jour, quoi qu'il arrive avec le directeur sportif, donc ce sera aussi choisi avec Omar Berada, hein, bien sûr. C'est pour ça que les noms qu'on a entendus avant décembre ne sont peut-être pas forcément ceux qui seront pris en compte par Omar Berada et toute la clique. Toutes les rumeurs de partout vont vers le fait que Ineos veut faire un grand mercato cet été. Un grand mercato, c'est-à-dire dépenser beaucoup. Mais c'est surtout un grand mercato sur les deux axes. Déjà, on n'a pas le choix, mais achat et vente. Et
oui, dans le sens départ et achat.
Et un grand nombre de joueurs. C'est, dans les bruits, eux, ils aimeraient bien avoir 15 mouvements, que ce soit out, in et out. En comptant les fins de contrat, on a déjà 3. Donc, t'es déjà et tout ça. Donc voilà, pour les fans de United, en plus, on a eu des résultats positifs ces derniers temps et on va en parler après. C'est les semaines les plus. Alors moi, j'adore ce qui se passe en coulisses. Donc pour moi, c'est les semaines les plus importantes qui vont suivre. Mais c'est peut-être pas les plus intéressantes pour tout le monde, mais les plus importantes pour nos
pour notre avenir, oui.
Donc voilà pour l'info du jour. Donc restez connectés. On risque d'avoir des infos très rapidement. Yes. Donc voilà pour l'info du jour. On va revenir sur les deux matchs qu'on a eu cette semaine. Donc le premier, c'était jeudi ou mercredi. Jeudi.
Wolverhampton.
4-3 face à Wolverhampton. Donc un match totalement différent de celui d'aujourd'hui. Un match très très ouvert. Où on a vu le goal de Rashford après environ une dizaine de minutes sur une belle action
collective. 6 minutes de jeu.
Après une superbe action collective et Højlund qui a le syndrome de Stockholm qui est dans les 16 et qui fait une passe. Mais magnifique but collectif, belle finition de Rashford. Donc 1-0 et après on a le 2-0 qui est marqué par Højlund sur un centre de show, un petit cafouillage, assez de chance sur le résultat, mais bon, il faut mettre le pied où il met le pied. Hein. Donc, ça fait 2-0. Sûrement la meilleure mi-temps qu'on a fait de cette année, et même depuis longtemps. C'est sûrement pas un hasard si c'est parce que Martinez, bon, on en reparlera plus tard, mais Casemiro, ouais. Luke Shaw sont de retour.
Bah, on avait l'équipe type.
On avait l'équipe type pour la première fois d'année, parce qu'au tout début, Højlund n'était pas là, et tout, donc c'était compliqué. Donc, pour une des premières fois de l'année. Et après, l'arbitre remet Wolverhampton dans le match avec 2-1, ce penalty.
J'oublie juste de préciser qu'on aurait pu tuer le match avec un nombre incroyable d'occasions ratées.
On aurait dû tuer le match.
Oui. Ouais.
Un 3-0 aurait été normal. Et en fait, c'est un peu un échec de ne pas être à 3-0 à ce moment du match. Et d'ailleurs,
sachant que déjà, à la mi-temps, tu as 2 buts hors-jeu. Mais c'est ça, c'est juste les hors-jeux. Je ne parle même pas des occasions franches et nettes qu'on s'est procurées et qu'on a ratées.
Je pense surtout à 3 occasions avant les goals hein, de Højlund. Les 2 centres en retrait de Højlund, hein, je crois que c'est Garnacho et l'autre, c'est sûr, c'est Bruno qui.
C'est Bruno, ouais.
Qui a fait de la pétanque.
Il met un plat du pied, mais non.
8 mètres du goal. Et le troisième, c'est le centre en retrait de Garnacho. Excellent. Et que Højlund tire un peu sur le gardien quand même, donc il se rate. Et bon, la gardien fait un bel arrêt, mais il se rate quand même, Højlund. Et à ce moment-là, bien sûr, une action qui sort de nulle part, parce que Wolverhampton existait vraiment peu. 2-1, donc ce penalty, pour moi, c'est un scandale. Je dis, je suis plutôt dans la team Adama que la team Jérémy, on dira, pour l'arbitrage, où pour moi, l'arbitrage fait partie. Mais quand je sais que c'est exactement le même gars qui a pas sifflé l'attentat de Van Dijk sur Nkunku dans les 16, 24 heures plus tôt, moi c'est ça qui me saoule un peu. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de complot contre Man United, mais ça, c'est un.
Il n'y a pas de constance, c'est ce qu'on disait quelques podcasts avant.
Et juste pour les arbitres, j'ai entendu un commentateur qui avait totalement raison, un commentateur anglais qui disait quand tu dois regarder sur 8 ralentis pour savoir s'il y a juste un contact et que le gars tombe comme si c'était fait et s'est pris une balle, premièrement il y a un problème, et deuxièmement, c'est pas parce qu'il y a contact qu'il y a faute.
Et puis même, les images au ralenti n'étaient absolument pas révélatrices. Je vous le disais, je le sentais. Je me disais, mais putain, mais si tu t'arrêtes juste sur ces images arrêtées, c'est sûr que tu vas siffler. Alors que même le contact, comme tu l'as dit, hein, si tu dois regarder je ne sais combien de caméras, je ne sais combien d'angles, arrêter pile poil au moment du contact, voir s'il y a contact.
Et puis,
vraiment, ce penalty, c'est
sans être scandale. Parano, mais c'est quand même, au bout d'un moment, quand tu as trop de récurrence, quand même, tu peux pas faire autrement. C'est juste que je crois que Casemiro paye une sale réputation en fait, parce que bah, t'es presque sûr que c'est aussi, pas Casemiro aussi. Ça se passe pas comme ça en fait.
C'est comme,
bah, surtout
c'est
qu'il prend un carton au bout de 2 minutes.
C'est ça, j'allais dire, c'est comme le. Il prend
un. Je veux bien que son tac soit un peu appuyé, mais.
C'est vrai. Et l'arbitre, j'ai pas du tout aimé sur ce match-là. Après, on s'en sort bien. Donc 2-1, 3-1, but de Mac Ronaldo. Donc sur un corner, un grand moment de football qu'on marque sur corner. Même lui, il n'est pas sûr de sa position quand il marque. Il dit vraiment, lui, cette année, il a tout qui tombe pour lui, et heureusement, parce qu'on en a besoin. Ouais. Mais au niveau académique, c'est. On en reparlera encore sur la passe. Alors, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Moi, j'étais en train de conduire. Je voyais les commentaires. Je suis plutôt de la team de Mohamed. Au final, bah, il a fait le bon choix parce qu'on a marqué sur le but cette semaine, aujourd'hui sur la passe. Mais s'il doit refaire 50 fois cette action-là, il a fait le mauvais choix. Bref, on en est là. Et après ça, donc, on a commencé à faire des changements et on voit quand même que cette équipe-là, on n'a que 11 joueurs environ ou 12 parce que le drop de qualité est énorme.
Match dominé. Casemiro, en fait.
Ouais, Casemiro,
c'est foutu au milieu.
Et donc, on prend le 3-2 sur un cafouillage, c'est un corner ou c'est un coup franc.
Notre spécialité, il faut le dire. Hein. À la fin de l'année, on comptera le nombre de buts encaissés sur coup de pied arrêté, les gars.
Le pire, c'est quand même le troisième but. Hein. Troisième
et justement, but, là, corner. Donc 3-2. Là, on a fait rentrer les cerveaux, donc Anthony et compagnie. Et il a une super entrée. Il a fait 17 minutes, il a fait deux tirs et sur un corner où la seule chose à faire, Shaw aussi fait une erreur. Shaw, là, il doit se retourner et mettre dans le coin et puis on va perdre du temps. Sauf qu'il veut jouer une balle.
Toute l'équipe était montée. Ouais,
aucun sens. Ça m'a fait un peu penser au goal entre c'était quoi, Istanbul, Başakşehir. Non, c'était qui? Lequel? C'était
Başakşehir avec Matic seul au milieu.
Donc, et puis bon, il y en a certains qui sont tombés sur Varane, mais Varane, il ne peut pas tellement défendre différemment.
Onana aussi qui ne bouge pas, mais c'est difficile de leur tomber dessus, tu vois. Mais oui.
Bah, là, moi, j'ai écouté Ben Foster qui fait des podcasts très intéressants.
Oui. Et c'est une grosse mode, hein, les podcasts chez les anciens joueurs de foot anglais. Hein. Là, ils l'ont
tous. Lui, il est vraiment intéressant et il expliquait, il a raison, il a dit les gens vont lui tomber dessus parce qu'il fait même pas, il essaye même pas de plonger. Mais par contre, il ne va pas l'arrêter quoi qu'il arrive.
Ouais, donc, il est prêt totalement à contre-pied, donc, tu peux rien faire. Elle passe entre les jambes de Varane en plus, je crois, au niveau de la visibilité.
Donc voilà, ouais, non, il joue, Neto, là, joue super bien parce qu'il est sur le côté et tout le monde, moi le premier, je pense qu'il va enrouler et il la met là. Et après, je pense que j'ai jamais autant crié sur un goal depuis vraiment, je pense, Makeda.
Ça fait très longtemps, ouais.
Ah non, tu peux pas dire. Voici, voici.
Oui, Minou.
Moi, j'ai crié hier. Après le troisième but de la Côte d'Ivoire. Mais c'est un autre sujet.
Et donc, Kobbie Mainoo, sur un assist de Forson, comme quoi c'est possible de faire des statistiques quand tu
vois. Ah, l'assist, il est généreux, l'assist. Hein.
Pellistri l'a jamais fait.
Ouais, mais quand même, il fait une passe. C'est Mainoo qui fait tout le reste. Par contre, son appel, je préfère son appel que son entre guillemets passe décisive. Ouais. Son appel, il permet d'attirer les Mina et ça lui ouvre l'accès. Après, il finit.
Si c'est Rashford ou même Garnacho, il fait l'appel dans Mainoo et puis il n'y a pas de goal. Donc, Mainoo, une action de classe jusqu'à la célébration. Donc, petit pont sur Kilman qui est déjà. Et après, il enroule. Rien à dire.
Il nous a littéralement sauvé le match à lui tout seul.
Il y a tout qui va, mais tu l'as refait 10 fois. Je ne sais pas si tout passe 10 fois, parce que là, il y a tout qui passe. Tout est parfait.
Il faut un peu de réussite quand même.
Ah, il faut de la réussite, mais tout est parfait. Dans la gestuelle, tout est parfait. C'est incroyable.
Après lui... c'est le talent du gamin. Hein. On ne va pas se mentir. Ouais. C'est un très, très gros talent qu'on a. La preuve, je crois que jeudi, je ne sais pas si aujourd'hui, c'était aujourd'hui ou jeudi contre les Wolves, il enchaînait sa 8e titularisation d'affilée quand même.
Il est sorti tôt aujourd'hui.
Il faut quand même un peu le gérer.
Là, c'est OK. D'habitude, je critique.
Ça reste un gamin de 18 ans.
On est d'accord. Ça ne m'a pas déplu qu'il sorte.
Ça me fait toujours chier de voir McTominay, parce que même s'il fait l'assist, en fait, Mainoo, moi, si je suis Ten Hag, pour moi, il y a 4, mais bon, sûrement plus que 3 joueurs que je sais que je mets quoi qu'il arrive quand j'ai mon équipe type. Intouchable, pour moi, c'est Casemiro, Mainoo et Højlund. Les autres, alors tu sais que Bruno ne va pas sortir et tout, mais si je suis à sa place, moi c'est les 3 seuls ou n'importe quelle composition.
Varane, actuellement, tu n'as pas le choix.
Non,
bah, surtout sur ton effectif.
Bah si.
Sur ton effectif.
Lissandro.
Non, tu as du choix. Mais non, mais Lissandro, on part en face parce qu'on n'a pas encore parlé d'abord le sujet. Mais là, pour l'instant.
J'ai dit 3, c'est pour ça que j'ai dit 4, mais j'en ai plus.
Moi, j'avais compris. Moi, j'ai compris dans l'ensemble ça.
J'ai un espoir pour l'instant, que ce soit une blessure mineure.
Gros point d'interrogation suite au match de ce soir pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que c'est une écoute de podcast, ils n'ont pas vu le match. Lissandro est sorti là il y a 1h30, le match s'est fini il y a 1h30, 2h. Il est sorti sur blessure, le genou. Pour l'instant,
c'est pas Vladimir Koufal sur un duel qui retombe sur son genou et son genou fait une torsion.
Ouais, il fait même pas le mauvais geste. Koufal fait même pas le mauvais geste, c'est vraiment il tombe de son propre poids. Ouais,
c'est un duel, et son poids sur le genou. Le genou, il fait une torsion qui. Pas naturelle, on va dire.
Ce bâtard, il tacle quand même alors qu'ils sont dehors du terrain, mais bon.
Ah, mais moi, j'ai pas perçu le geste comme volontaire à faire mal, c'est de l'engagement. D'ailleurs, geste sympa, il va le voir à la sortie. Pas tous les joueurs font ça, il va le voir à la sortie. Ouais, pas tous les joueurs font ça. Hein.
Mais pour revenir rapidement sur l'utilisation de McTominay, je trouve que là, justement, on est dans son rôle. Hein. Même si tu l'aimes pas, là, comme cette saison, entre guillemets, c'est sa saison. Profitons-en, il est dans le rôle. T'as bien vu contre les Wolves, ça a payé. Aujourd'hui, il fait une passe D, il a failli marquer, même si bon, ça reste du McTominay. Mais Au moins, en sortie de banc, je trouve que c'est pas dégueulasse.
J'ai une question, moi, du coup, qui m'est venue pendant le deuxième match, mais on peut en parler sur celui-là, non, parce que tout ouvre un petit peu le sujet. Quand Mason Mount revient et qu'il est fit, on parle pas des trois premiers matchs, hein, il revient fit, vous changez quoi sur le 11 de départ? Qui bench?
Malheureusement, rien. Mais sinon, moi, c'est Bruno.
Bruno.
Bah oui.
Moi aussi.
Non, mais alors, non, je reformule, pardon. Reformule.
En fait, c'est est-ce qu'il remplace Meïlou ou pas?
Je vous demande pas votre avis de supporter. Je vous demande, selon vous, ce qui va se passer. Si quand Mason Mount revient, qui bouge du terrain? Est-ce que quelqu'un bouge?
Je pense que ça peut varier selon les matchs. Mais par exemple, on affronte un Luton qui va faire que défendre. Bah, tu mets Mount. T'affrontes un West Ham, un Wolves qui te rentre dedans, t'as besoin d'un peu plus de présence. Et Maïnou, il apporte cette présence en tout cas. On l'a bien vu qu'en début de saison, quand on avait Mount, c'était Casemiro seul face au reste du monde. Donc en termes d'équilibre, je ne sais pas si avec Mount, t'as le...
Mais ça veut dire que tu payes un joueur 60 millions pour le bencher en départ?
Peut-être que Maïnou, tu ne t'attendais pas à ce niveau de Maïnou.
Maïnou était quand même prévu dans les titulaires. Après... Son éclosion, elle est peut-être plus importante qu'attendue.
Prévu de jouer dans la rotation, mais il était pas.
Oui, mais je veux dire, j'adore Maïnou, et on est d'accord ici, là, il fait partie des rares rayons de soleil, donc il n'y a pas de sujet. Mais t'es coach confirmé, tu vas baser la fin de ta saison qui est importante pour toi sur un jeune qui est en train d'éclore plutôt que sur Mason Mount, que tu as acheté 60 millions, que tu as acheté 60 millions. Hein.
C'est le terrain. Ouais. Hein. C'est le terrain, en fait.
Mais on est d'accord, mais vous pensez que. Ça, c'est votre avis de supporter et je l'entends. Est-ce que vous pensez que Ten Hag va raisonner comme ça?
Oui.
Oui.
Parce que quand il est revenu de blessure, il ne jouait pas.
Et son milieu, il a enfin un équilibre.
D'accord. Voilà. Alors,
et lui-même, le milieu de Manchester a enfin un équilibre depuis Pogba, Matic, Herrera.
L'avantage de Mason Mount, excuse-moi Jérémy, c'est qu'il est polyvalent et je trouve qu'il arrive à avoir un bon niveau à plusieurs postes.
Tu vas prendre des minutes sur les côtés aussi. Hein.
Tu peux le mettre à droite,
à
gauche.
Je sors Garnacho et je mets Mount pour ma part.
Garnacho à droite, c'est compliqué.
Garnacho, moi, je le préfère en sortie de banc.
Ah non, là, les matchs qu'il fait.
Les deux derniers matchs à droite, c'est un malheur.
Je vous pose une question.
Mais je ne suis pas encore satisfait.
Pour faire suite à vos réponses, je dis bien pour faire suite à vos réponses, hein. Puisque tu envisages un grand mercato, est-ce que ça vaut vraiment le coup de garder Mount?
T'as pas le choix.
Bien sûr.
Ça reste un joueur anglais, home ground, je pense, ça te monte.
Si tu fais monter Meïnou, ton joueur anglais, tu l'as. Donc c'était.
Après, la question, tu la poses à un moment où on est éliminé, il ne nous reste que la FA Cup. Quand t'as deux matchs par semaine, tu vois, tu peux alterner entre Maïnou, Mount, tu vois, faire un peu
en de... Faire abstraction du prix. Parce que toi, tu fais pas abstraction du prix, tu prends le prix en compte. Le prix, on s'en fout. Maintenant, il est dans l'effectif, ça veut pas dire forcément qu'il va être titulaire. Dans la rotation, il pourra être utile.
Tu peux pas dire ça Adama. T'es obligé de tenir compte du prix, parce que je vais te dire quelque chose, simplement. C'est que si Anthony avait coûté le prix de Daniel James... il serait peut-être pas autant titularisé. Ça, c'est bien, on sait tous.
Ça fait 3, 4, 5 matchs où là, il n'est pas titulaire alors qu'il est totalement fit.
Alors, ça fait 3, 4, 5 matchs
qu'il n'est pas titulaire. Garnacho, qui est ailier gauche, il n'avait jamais joué à droite avant.
Oui, mais parce que.
Il enchaîne les titularisations à droite.
On en revient toujours à la même chose. C'est parce que tu ne peux pas ignorer, malgré le prix, tu peux pas ignorer Garnacho et qu'on sait tous que Rashford, il peut, je pense, même tuer sa propre maman devant les caméras, que tant qu'il n'est pas inquiété par la police, il sera sur le terrain. On le sait tous. Je veux dire... Ouais.
T'as bien vu, il avait testé Rashford à droite et Garnacho.
Regarde ce qui s'est passé. On a eu un énième problème avec lui, deuxième ou troisième, quand j'ai dit énième, il n'a pas eu non plus 20, tu vois, mais deuxième ou troisième problème de discipline avec lui, il a été puni sur un match de coupe. Voilà, les gars. Non, mais ce que je veux dire, c'est que partant de là, il reste qu'un seul poste de disponible. Quand tu pars de ce principe-là, sans juger que Rashford, ça me gonfle, mais sans le juger, tu sais que Rashford, il est automatiquement sur un côté. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, il ne te reste plus qu'un seul côté pour faire du turnover. T'as plus le choix, là.
Non, moi, je ne crois pas. Je crois vraiment que même l'année prochaine, oui, Mount, on l'a payé 60 millions et ça fait chier de ne pas l'avoir titulaire ou d'une autre effectif, mais Krilich, il a acheté 115 millions et il est en rotation. Et à plusieurs postes.
Il est en rotation dans l'effectif de City. Enfin,
oui, mais bien sûr. Mais Mount, pour moi, c'est Si tu me demandes un joueur à avoir sur le banc ou titulaire, un gars de rotation, je sais pas, de un peu dans le profil, attention, il est meilleur que ça, mais un peu, tu sais, la première année de Oxlade Chamberlain à Liverpool. Il l'avait acheté quand même 40 millions, c'était beaucoup trop cher, et il n'était pas titulaire. Il rentrait des fois au milieu, des fois à droite, des fois en 10, et tout. Et il a été très, très important sur les premières années où ils ont réussi sur leur premier titre et les runs en Ligue des Champions.
Mais je ne pense pas que c'est ce que Ten Hag a promis à Mount, ça, par contre, avec le numéro 7 et tout le truc, tu vois.
Mais les promesses, déjà, n'engagent que ceux qui les croient. Et le problème, c'est que le football, ça évolue. Et aujourd'hui,
cet été, on ces blessures facilitent pas son intégration. Donc, c'est déjà un élément de réponse à sa charge, entre guillemets. Donc, quand il fallait enchaîner les matchs et prendre sa place, bah, il n'était pas là.
Pas de chance.
Oui, partie du jeu également.
Par contre, je le vends pas parce que.
Après, faut pas oublier que Bruno, il approche la trentaine, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si l'objectif c'est de le garder encore 3-4 ans comme on s'était
pour Casemiro, mais je pense que oui, clairement, hein, là, les gars, tout est capitalisé sur Fernandes actuellement. Je dis pas que je suis d'accord avec ça, je dis juste que actuellement, factuellement, tout est capitalisé sur Fernandes.
Après, on verra, quoi qu'il arrive,
il sera vendu Mount cet été.
Ça
serait un aveu de faiblesse, en fait.
Ten Hag, autant moi, j'aime pas Bruno. J'aime plus Bruno.
Ouais, j'aime plus
Bruno. Parce que ça devient une caricature de lui-même. Et pour ceux qui regardent la NBA, quand je le vois, j'ai vraiment l'impression de voir Russell Westbrook. Dans le sens où le gars, oui, il fait des chiffres, mais il a un tel déchet à côté. Ça me fait la même chose.
Oui,
il crée des occasions. Donc, comme Westbrook, oui, il a des assists. Mais en même temps, il a un taux de passe réussite qui est dégueulasse, comme Westbrook qui a énormément de turnover. Westbrook qui marquait 25 points par match. Et tu dis, comme Bruno, il ne marque même plus. Mais il prenait 20 tirs par match, ce qui n'est pas bon pour ceux qui regardent la NBA. 25 points en 20 tirs, c'est pas bon. Ou c'est moyen, pas bon. Et Bruno, toi, là, quand j'ai été regardé, c'est le 9e gars qui shoot le plus de première ligue. Il a 56 shoots pour 2 buts hors penalty en première ligue. Et. J'ai de la peine avec Bruno là, mais quoi qu'il arrive aussi, Ten Hag, il a difficilement eu le choix, vu que Van de Beek, je pense que la carrière de Van de Beek est terminée.
Après, même tout court.
Ça fait trois ans, c'est mort, c'est terminé.
Il se relancera aux Pays-Bas tranquille.
Exactement, mais bref, ou dans un championnat mineur, au niveau, c'est fini. Une année sans jouer quasiment, plus les croisés, terminé. Il a 27 ans déjà, donc là c'est pas 12 ans. Où je veux en venir, c'est que Ten Hag l'année passée, il avait quasiment personne quand même pour remplacer Bruno. C'est aussi pour ça qu'il a enchaîné les matchs, et parce que Bruno est pleurniche pour enchaîner les matchs. Et
je suis pas tout à fait d'accord parce que l'année dernière, il a raté 3 mois, mais logiquement, et moi je l'ai toujours vu comme ça, Eriksen aurait dû être le remplaçant de Bruno. Et il aurait bien mieux être le remplaçant.
Je savais que Eriksen avait été recruté pour jouer plus bas. C'était le but. C'était pas du tout
l'objectif
de le mettre en rotation en 10.
Si tu dis, ok, Eriksen aurait pu jouer en 10, moi je préfère Eriksen en 10. De toute façon, il peut plus jouer au foot maintenant aussi.
C'est trop tard.
Beaucoup trop tard. Mais là, t'enlèves un titulaire du milieu de terrain. Donc, c'est-à-dire que si tu mettais pas Bruno, même si tu mettais Eriksen en 10, c'était pour mettre McTominay. Et il y a un tel drop de qualité que j'espère l'année prochaine ou quand il reviendra, quand Bruno n'est pas bon, comme par exemple sur les deux derniers matchs, il n'est pas bon, Mount, il peut rentrer. Ou Mount, il peut starter. Ou Mount, il peut aussi commencer tous les matchs de coupe. Parce que si tu as Mount comme rotation numéro 10...
Si je peux me faire l'avocat de Bruno sur les deux derniers matchs, je vous trouve.
J'ai juste une question pour comprendre. Attends, Mohamed, excuse-moi, je te coupe la parole. Juste pour finir ce qu'a dit, j'ai une simple question. Quand tu dis tous les matchs de coupe, tu inclus la Ligue des Champions?
Non.
Une partie mineure.
Non, mais même. Tu prends quand même pas Mount juste pour le starter sur des coupes mineures.
Oui, mais.
C'est quand même dur.
Au final, Jérémy, tu t'en fous de combien on a payé. C'est fait.
Ouais,
c'est fait. Maintenant, tu dois trouver la place dans l'effectif et quoi qu'il arrive.
Sancho devait jouer tous les matchs alors.
Non, mais alors moi je vais vous dire ma réponse par rapport à tout ce que vous m'avez dit. par rapport à tout ce que vous m'avez dit, après je redonne la parole à Mohamed, par rapport à tout ce que vous m'avez dit, si c'est pour jouer des coupes mineures, moi je préfère qu'on le vende. Pour moi, il sera beaucoup plus rentable, Mount, en étant vendu et réinvestissant son argent ailleurs que de garder Mount pour jouer de la coupe mineure.
Moi, personnellement, je pense qu'il sera en rotation avec Mainou. Ça veut dire qu'il va jouer
que ces matchs-là. Principalement,
je pense qu'il sera en ballotage avec Mainou, vraiment.
Mais ils alterneront tous les deux.
En tout cas, je serai à sa place, je l'aurais mauvaise de me faire bencher par Mainou. Je vous le dis honnêtement.
Oui, mais
c'est pas le même profil, donc c'est pas comme si tu avais un gars du même profil. Ouais. Et... Oui.
Ouais, mais probablement, c'est pas le même joueur, pas le même type de joueur. Et malheureusement, il y en a un wagon, des gars comme ça. C'était qui l'ailier droite quand Ronaldo a commencé à percer ? L'ailier gauche, pardon.
On n'en a jamais eu de correct. Donc cela, lui, ça va, il est arrivé sur une place qui était quasiment vide. Donc lui, c'est une mauvaise. Enfin, je comprends ce que tu veux dire. T'as t'as la bonne logique quand tu dis ça, Antoine. T'as juste pris de la mauvaise personne parce qu'il est arrivé
chez nous. C'était Fletcher qui jouait à droite.
C'était un désert. Mais oui, c'était un désert. C'est Fletcher qui. Ouais. C'était une catastrophe. C'est pour ça que mauvais exemple. Mais je comprends ce que tu veux dire. J'entends ta logique parfaitement. C'est juste l'homme mauvais.
Mais moi, je suis plutôt. Moi, j'aimerais le voir à la place de Bruno quand on lui laisse autant de chances que Bruno. Mais ouais. moi, si tu me dis, est-ce que tu préfères le vendre ? Si tu le vends cet été, ce sera 30 environ. Hein. Faut pas rêver.
Ah non, par contre, tu sers le
vendre. Il a fait une saison blanche.
Il n'avait même pas joué.
Ouais, mais tu...
Presque
bah, oui, mais ça reste un international anglais. Vous l'avez dit, tous les clubs ont besoin de home ground. Ça reste un international anglais. Quoi qu'il en soit, ça se vend.
40 max.
Et ça fait 2 ans. Ça ferait une deuxième saison blanche, quasiment.
Je me tiens un peu une balle dans le pied parce que l'argument est anglais, ça tient un petit peu moins, le home ground. Parce que du coup, ce sera à l'étranger. Mais typiquement, Mount, c'est le genre de mec que je pense que tu peux voir jouer au Bayern.
Oui, mais bon, ils ont Musiala.
Mais le Bayern, ils font aussi beaucoup d'achats-ventes, les gars, toutes les années. Et aussi, ils pourraient aussi aller au PSG, comme lui.
Alors, je te promets que l'achat-vente ne sera pas sur Musiala. Là, c'est sûr. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est-à-dire que si tu le vends.
La question est pertinente, ouais, mais juste, je ne pense pas que ça se fera, malheureusement.
Et moi, je préfère avoir Mount dans mon effectif, quoi qu'il arrive, parce que j'aime bien ce joueur, même si le problème, c'est qu'on s'est fait baiser sur le prix. C'est comme cet été, moi, on a payé 60 millions pour Onana, je ne suis pas content d'Onana, et cet été, je ne voudrais quand même pas changer de gardien.
Ah oui, donc, non, ça c'est sûr.
Donc, pour moi, c'est un peu...
Il faut ramener derrière.
Maintenant...
Il est toujours au chômage.
Maintenant, Mount, c'est-à-dire que si tu le vends à un prix qui est dans le marché, tu seras aux alentours de 35 millions de pounds. Et dire que si tu le vends, tu dois le remplacer. Et je ne suis pas sûr que tu puisses avoir vraiment un joueur meilleur que lui dans son profil pour 35 millions. Qui est anglais. L'erreur, par contre, était de lui donner numéro 7 et de faire toute la propagande, comme chaque transfert de Manchester United. Mais
Et je ne sais pas non plus, parce qu'on parle aussi Ineos. Là, on parle d'Eric Ten Hag, mais il y a Ineos derrière et la gestion financière. Au niveau salaire, il est comment, Mount ?
Donc, il a 200 par semaine.
Il est bas pour Manchester United.
Il a 200 semaines, je crois, qui fait du 12-14 par an.
Il est en dessous de Martial, il est en dessous de toute cette bande-là.
En dessous de Martial, c'est pas dur, il y a alors que 4 mecs au-dessus de lui, jusque-là.
Bref, donc, sinon, on peut aussi, vu qu'on est un peu débordé, parler du match d'aujourd'hui, pendant que je cherche le salaire de Mount. Donc, victoire 3-0.
Match plaisant.
Match totalement différent. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup plus de plaisir à regarder le foot face à Wolverhampton, mais tu sentais que ça partait dans tous les sens et qu'on n'est pas encore prêt à faire ce genre de foot. Le match contre Wolverhampton, j'avais l'impression de voir les débuts de Klopp, vous savez, où ça partait dans tous les sens, il y avait beaucoup de goals, mais à la fin, ça se finissait tout le temps mal parce que...
Moi, je suis pas d'accord, hein, parce que Wolverhampton, mis à part le penalty, ils ont eu quelques situations. Mais c'est vraiment le pénalty qui a tout décompté pour eux. La première mi-temps était à l'image de celle d'aujourd'hui, même si aujourd'hui on sent monte en confiance, il y a un petit cran d'écart. Mais on sent que c'était le retour des titulaires avec un changement au niveau de la mentalité. Et comme tu l'as dit, c'est dès qu'on a fait les changements, il y a eu un drop de qualité. Ensuite, mentalement, on est encore assez faible. Mais sinon, je trouve que les deux matchs, dans l'ensemble, il y a beaucoup de mieux. Même si aujourd'hui était largement meilleur, je suis d'accord avec toi. Hein. Il n'y avait pas un écart énorme entre les deux matchs.
Ce que je préfère aujourd'hui, c'est que West Ham est meilleur déjà que Wolverhampton. Même si Wolverhampton, on a mis 4 aujourd'hui, ils ont gagné 4-2 aujourd'hui contre Chelsea. Bon, Chelsea, tu me diras, voilà, mais ils ont quand même gagné 4-2 contre Chelsea. Aujourd'hui, il y avait beaucoup plus de maîtrise. Et j'ai entendu beaucoup Lolichon, et première fois que je n'ai pas trop aimé ses commentaires, et et c'était qui avec lui, je ne sais plus le nom de l'autre gars, qui est tout le temps, il est tout le temps sur les matchs, où il critiquait énormément le manque de rythme et le fait que Manchester joue un rythme tranquille et tout. Et ça critiquait pas mal, même quand on gagnait 1-0, 2-0. Et j'avais envie de leur dire, mais attendez les gars, vous défoncez Ten Hag à chaque moment que vous pouvez. Et là, donc, il a analysé l'adversaire. L'adversaire est bon qu'en contre. Donc, il joue à un rythme peu soutenu et il couvre derrière et on gagne 1-0. Donc, tactiquement, c'est joué juste. Quand on gagnait 1-0, on n'avait pas de raison de presser comme des gros porcs pour se faire prendre en compte par Bowen et puis Koudou. Parce que Dalot, aujourd'hui, fait un très bon match.
Ouais.
Mais il fait un très bon... Koudou, c'est
lui qu'on a envie
de prendre l'Ajax. Et puis, heureusement que...
pas le bon passeport.
Ouais, et heureusement que Moyes, c'est un ami de Manchester United, qu'il a décidé de mettre Bowen en pointe. Mais sinon.
Oui, parce que non, Bowen en pointe, ça marche jamais. Les peu de fois où il le fait, à chaque fois, ça marche pas.
Il est trop petit. Et puis là, en plus, il ne pouvait pas tellement gagner sur la vitesse parce qu'il avait Martinez sur lui.
Oui.
Mais bref, donc, victoire 3-0. J'ai trouvé une bonne maîtrise. Bien sûr, il y a eu une drop, que ce soit en fin de match.
Personnellement, j'étais juste d'accord avec l'Olichon parce que j'ai trouvé qu'on avait pas mal de déchets techniques, surtout en première. Ça s'améliore en deuxième, mais en première c'était dur quand même, le déchet technique.
Déchet technique quand t'as des joueurs comme Bruno, Rashford, Garnacho.
Ah mais c'est quand même moins que d'habitude. Hein.
Là, oui, en première, en deuxième oui, en deuxième je suis d'accord. En première, j'ai trouvé ça lourd.
Là franchement, en plus, les deux
c'est
matchs.
C'est pour différentes raisons en plus le déchet technique. Rashford, en fait, il joue tout seul. Rashford,
c'était le seul qui n'était pas au
même niveau que les autres. Il est hors du coup. Pour le coup, là, c'est moi aujourd'hui qui vais tirer sur lui. Bruno, c'est parce que il peut pas jouer le jeu que
Bruno. Bruno, vraiment,
il peut pas jouer. C'est pas possible.
Je l'ai pas trouvé dégueulasse aujourd'hui, Bruno.
Ah, et s'il a raté pas mal, quand même.
Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai l'impression qu'on est passé en 4-3-3 où Bruno reste vraiment sur le côté gauche du milieu. Maïnou prend le côté droit.
Par contre, c'est l'un des problèmes que j'ai remarqué.
Et il était cantonné à un rôle et il faisait pas plus que. Il voulait pas courir partout. Je sais pas si vous avez remarqué ou peut-être si moi je dis n'importe quoi.
Ça, je l'ai vu, ouais.
Et justement, j'ai trouvé que c'était plus. On avait un Bruno plus intéressant, même si techniquement il y a encore du déchet et tout.
Après, il y en a eu moins.
En fait, il passait sous le radar et je trouve qu'il se fondait dans le collectif. C'était un peu plus plaisant que d'habitude, ça, c'est clair.
Oui. Par contre, le problème, c'est que. En fait, on. Vu, je suis d'accord avec toi qu'il était plus discipliné que d'habitude, mais je l'ai trouvé tellement neutre. Il a rien fait vraiment bien. Le match face à Wolverhampton, si on ne gagne pas 3-4-0, c'est une grande partie par sa faute parce qu'il a vraiment deux énormes occasions, autant grosses que celle de Højlund. Et le match face à Wolverhampton, il finit aussi le match à environ 52, je ne sais plus, j'avais été regardé, un pourcentage de passes, ou c'est le match d'avant, un pourcentage de passes qui était aux alentours de 55%, passes réussies, c'est pas possible. Et aujourd'hui, il était plus dans la maîtrise. Par contre, il a toujours ses schémas de passes qui sont dégueu. Dans les 30 derniers mètres, il y a trop de déchets, ça c'est sûr. Et c'est, quand il a la balle, il n'y a qu'un seul joueur qui recherche.
C'est Rashford.
Et même si j'ai bien aimé le match de Dalot, mais tactiquement, c'est la seule chose que je reproche à Ten Hag, et je ne reproche pas, on a gagné 3-0, on s'est amusé, il n'y a qu'une seule ombre au tableau, et il n'y est pour rien, sa blessure de Martinez. C'est ce système de Dalot qui rentre dans l'axe. Il nous apporte pas mal dans l'axe au milieu. Le problème, c'est que tu as le côté droit, il est complètement délaissé, et donc c'est Garnacho face au reste du monde, quoi, sur le côté droit. Donc, on voit, en première mi-temps, il avait pas mal de peine à passer son défenseur. Donc, on n'a rien eu sur le côté droit. Et par contre, en deuxième mi-temps, il a pris le dessus sur les défenseurs. Et là, tout d'un coup, bah, c'était le meilleur créateur. Comme c'est le meilleur créateur à chaque match qu'il joue à droite. C'est dingue quand même qu'à Manchester United, tu dois dire qu'il faut mettre les joueurs sur leur mauvais pied pour qu'ils fassent des centres. Toujours pas pour Højlund, attention, mais pour qu'ils fassent des centres. Donc voilà. Et donc, les buteurs, Højlund, son goal, c'est grande classe, tout simplement.
Hein, une question technique. Pour vous, c'est un assist de Casemiro ou pas? Parce que je crois qu'il y a Benrecht qui dit que quand tu as plus de 3 touches, il n'y a pas d'assist.
Non.
Je crois qu'il fait 3 touches.
Bah, Maïnou, il fait combien de touches?
22 000.
Ah oui,
ça reste une assise de.
Forson, ils lui ont donné la passe D alors que je crois qu'il fait minimum.
Ils lui ont donné la passe D. Vous êtes allé voir vraiment le site de première ligue.
Même le club.
Casemiro, ils lui ont donné l'assise là, je suis allé voir.
Ok.
Bah oui, bon, ça reste une assiste.
Parce que alors, c'est un contre-favorable, alors l'assiste sur un contre-favorable.
Mais en tout cas, l'action d'Ailund est très belle parce que franchement, c'est lui qui nous débloque un peu le match parce qu'on n'avait pas de grosses situations avant ça.
Non, mais en fait,
il se met sur son pied droit, il lâche
je voulais en venir au fait que en fait, le but d'Ailund, pour moi, c'est encore un énième but sans assiste. Alors, ok, il va être répertorié avec assiste, mais un contre-favorable. Oui, je suis désolé, ça reste un contre-favorable, quoi. Je veux dire, c'est pas maîtrisé.
Mais en fait, c'est toujours ça de prix. Là, oui, je comprends ce que tu veux dire. Gagner en maîtrise, avoir des actions
de jeu. Pour moi, fait tout seul. Pour moi, c'est un but où il le fait tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'assist au sens.
Cette année, on verra pas ça. Ce que tu veux, on le verra pas. Mm. Donc là, il faut prendre les points.
On commence à le voir, par contre. Mais il a dit un truc intéressant, Ailund, tout à l'heure, à la fin du match. Il a dit « J'ai parlé à mes coéquipiers et aux managers, car nous devons nous rendre meilleurs les uns les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux être impliqué autant que possible. J'ai également beaucoup travaillé sur moi-même. Je pense que je me suis beaucoup développé. » En gros, tout le monde l'a vu. Il commence à gueuler et tout. Il a patienté 6 mois. Il ne touchait pas un ballon. Là, ça y est, il le fait savoir. Et je ne sais pas si vous remarquez, il n'y a toujours pas de but avec des assists
réels,
des ailiers. Après, mais en tout cas, on cherche à plus le
bah si, chaud de... contre Wolverhampton, oui. c'est lui qui fait l'assist.
Oui,
mais c'est un centre dans le.
Oui,
le gardien la touche, il retombe sur son pied, donc c'est pas considéré comme une
action. Mais sinon,
mais c'est une action.
Dans l'esprit, c'est ça. Centre.
Ou Ailund est visé.
Voilà, c'est ça. Dans l'esprit, c'est ça.
Tu vois, Adama, pour aller dans ton sens, je trouve que le centre de chaud est plus un assist. Et aurait dû être qualifié d'assist face au contre-favorable de Casemiro.
Oui,
bah, le problème,
c'est l'intention, si tu veux, devrait compter plus que.
Oui. Chaud, le problème, c'est que c'est pas lui qui met le ballon vers lui, malheureusement.
Ouais.
Donc,
le truc, quand même, c'est que il a quand même pas grand-chose pour lui. Après, on parle toujours.
Ça va dans le bon sens, je trouve.
Face à Wolverhampton, il devrait avoir eu un but sur un assist d'un des alliés parce qu'il doit marquer sur l'action de quand Garnacho la met en retrait. Là, tu vois qu'il s'est précipité et qu'il a eu 21 ans aujourd'hui. Donc. Mais sinon, ce gars, ses 4 derniers matchs en première ligue, ses 4 goals, 2 passes décisives. Il a aussi marqué en coupe.
Il a 10 buts, là, TCC.
10 buts, 2 assists. On parle quand même d'un gamin qui a 20 ans dans un Manchester United dégueulasse. Moi, je disais, s'il finit la saison à. Il se rapproche 17, des 20.
18, ouais.
J'en attendais même pas autant parce que je me rappelle que. Cet été, voilà. Je vais dire 15
matchs. Le problème,
max,
c'est que. C'est qu'on ne reste que le championnat, en fait, Antoine.
Oui, mais cet été, on disait que normalement, on n'était pas censé baser notre saison sur lui.
Ouais.
Donc, en fait, si tu ne passes pas 15, ta saison sur lui avec les objectifs de début d'année. T'attends pas 30 buts dans l'année.
Alors,
c'est quand même ton numéro 9 que t'as payé 80.
Mais c'est pas Harry Kane.
Tu mets pas Harry tout sur lui, mais t'attends quand même un minimum de 10 buts. Là, il les a atteints pour moi. Je vais pas dire saison réussie, mais.
Je reviens à mon début de saison.
Très bien déjà.
Vous m'avez entendu le marteler 1 milliard de fois, mais pour moi, il aurait dû y avoir cette saison 2-9 en compétition. Ailund est inconfirmé.
Martial.
Ça, c'est incroyable de.
J'aurais pas aimé. J'aurais aimé un Ailund et un Cavani, par exemple, dans le type. Un gars en fin de carrière qui le.
Oui, oui, ça me va. Confirmer, ça ne veut pas forcément dire dans son prime. Mais confirmer dans le sens où le mec te facture minimum 15 buts TTC. Même s'il est en fin de prime, pas de souci.
Mais le truc, c'est quand même où là, on voit qu'on est quand même trop dur. C'est que la saison l'année passée de Rashford, où il joue tous les matchs et tout, tout le monde parle d'une saison incroyable. Il marque 30 buts en 56 matchs. Pas tout le monde, mais une bonne partie.
Il n'y a que vous. Pour vous, il a été bon un mois, il a été bon que 25 jours de l'année. Ok,
s'il vous plaît, ne remettons pas ça sur la table, merci.
C'est pas un mois, c'est du 27 décembre au 19.
Ouais, d'accord. Il a été bon 10 matchs, il a été bon 10 matchs. Si on calcule chaque match, il a été bon 30 minutes dans les matchs. Ok, on a compris.
C'est reparti.
Après, c'est pas parce qu'il marque 10 goals sur 10 matchs et.
Oui, nous étions sur Ailund.
Ailund.
Allez, jouez.
C'est la géométrie variable. Donc, sur Rashford, après, oui, c'était une bonne saison. Vous dites, ouais, non, c'est.
Bref, ça reste il a été excellent pendant la saison. Il a marqué 7 buts en 28 matchs à part ça, c'est pas ouf. Mais bref, sur la saison, il marque quand même 30 goals. Donc, et elle est vue comme une saison, pas loin, de, si tu regardes les supporters, exceptionnelle. Je disais, Højlund, s'il finit à 17 avec le peu de service qu'il a toujours, hein, parce que les buts, il se les crée presque tout seul quand même, c'est mieux. Garnacho le cherche plus, Bruno le cherche pas plus encore. Rashford, son match aujourd'hui, c'est...
Pour marquer, Højlund a dû lui prendre la balle. Donc...
et non, mais... Et donc voilà, mais s'il finit à 17 buts, on ne se rend pas compte. En fait, c'est un gars de 20 ans qui vient de l'Atalanta. Et, et s'il finit à 17 buts, c'est une saison plus que réussie pour une première en première
année. Et c'est une saison où on n'aurait pas autant dû compter sur lui. Ça, pour
et moi, je suis déjà satisfait en fait, de ce qu'il apporte. Parce qu'au-delà des statistiques, même ce qu'il montre sur le terrain, l'envie. Il
progresse, il y va, il a la dalle.
Moi, je suis satisfait parce que c'est prometteur pour la suite. Maintenant, quand il aura des services et quand on lui donnera le ballon, là, oui, je serai plus exigeant sur sa finition.
Ah, ah oui.
Mais aujourd'hui, non, ça va. Franchement, ça va.
Ah, tu vois et le but qu'il met tout à l'heure, il le crée tout seul.
Bah, quand tu vois la puissance de la frappe, j'avais l'impression de voir les buts au tout début de. J'aime pas faire comparer à ça parce que les gens.
Non, mais Haaland. Ouais, oui, Haaland frappe aussi fort.
Les premières frappes.
C'est son pied faible. Hein.
Pied droit, hein. Ou ceux qui se rappellent les buts, alors c'était en junior, mais de Greenwood où il tapait du pied, de son mauvais pied. Bon, il n'y en avait pas. Il tapait fort, mais pas.
Ta femme a lancé quelque chose.
Non, les gars, non, s'il vous plaît.
Mais oh, ça il envoie des missiles. Là, tu vois le gardien, Areola, qui est un très bon gardien, il ne peut rien faire. Donc. Et juste avant peut-être qu'on switch de sujet et on restera sur Højlund, Rashford, je ne vais pas le défoncer aujourd'hui et tout. Je vais être un bâtard et compréhensif dans la même phrase. C'est que même avec son match qui n'était pas oufissime face à Wolverhampton, il a marqué le but et après on a quasiment pleuré. Tu sens qu'il y a un problème. Un vrai problème en lui. Tu regardes, si vous regardez les images, après la victoire, donc tous les joueurs sont fous de joie, ils sautent et tout. Lui, il fait juste son tour comme ça. Tu sens qu'il est renfermé et tout. Donc, tu sens qu'il a des problèmes dans sa vie. C'est aussi Manchester United doit aussi gérer ça, comme on l'a fait pour Sancho. On est un club, on n'est pas le Real Madrid, donc on doit aussi gérer ça. Et
il serait tellement beau Rashford en bleu et rouge.
et je vais passer sur la partie un peu plus bâtard, dans le sens où. Comprends, j'espère qu'il va aller mieux parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Par contre, je commence à en avoir marre d'avoir Rashford qui n'est pas bien dans sa tête tous les 6 mois ou tous les années. Donc, j'espère vraiment qu'il va aller mieux parce que.
Je vais lui prendre un billet d'avion pour la Côte d'Ivoire et on va lui montrer. Et, il va voir ce que c'est la joie. Il sera pas malheureux. Si,
l'hospitalité.
La quête de l'hospitalité, les gars.
Et même si j'espère de tout mon cœur que cet été, le PSG fasse une offre de 100 millions pour lui.
De 50.
Et, non, ça ne sera jamais accepté. En fait, au-delà du bashing contre Rashford, c'est que... et ça va faire une transition avec ce qu'on va parler juste après, et la relève. Pour moi, là, il a gâché tout son crédit qu'il avait auprès d'énormément de fans et du club. Et il ne doit plus être vu comme le joueur majeur et le star boy de l'équipe. Mmh. Et justement, peut-être que ce sera mieux aussi pour lui. Ouais. Parce qu'en plus, il a le salaire, donc il s'en fout. Donc il aura moins de.
Il a une pression monstre sur ses épaules, en fait, à chaque fois. Il endosse le rôle du sauveur.
Non, mais ça, c'est lui. Ça, c'est lui qui se met tout ça. C'est bon.
Mais le club, franchement, Adama, le club lui a aussi donné, je t'assure. Les images, le numéro 10, le salaire, les publicités où il est toujours mis en avant.
Mais le salaire, il avait qu'à pas l'accepter, le salaire. Au bout d'un moment, tu prends le meilleur salaire du club. Tu prends le meilleur salaire du club. Mais t'acceptes. En fait, quand tu as un niveau de responsabilité tel, quand on donne ce type de salaire, tu sais en contrepartie ce qu'on attend de toi.
Mais
en fait.
pour lui, il a les épaules vu la saison qu'il a fait l'année dernière.
Mais les gars, j'ai pas forcément envie qu'on continue.
Ouais, c'est pas le but. Mais
en fait, et on connaît tous nos avis. Tout ce que je veux dire, c'est que. Il me saoule, mais c'est toujours mieux que d'avoir lui que Forson, Pellistri ou Anthony sur le terrain. Et que même si moi, je vous l'ai dit dans le groupe, hein, j'aurais aimé le dégager et plus jamais le revoir du club après ce qu'il a fait, je comprends Ten Hag et surtout le club, où en fait on est dans une dans un processus maintenant où il faut gagner. Et donc,
c'est
meilleur avec Rashford que sans. Et j'espère juste que le point est mis de côté, qu'on regarde cet été et pas qu'il soit
et juste. Et on en reparlera.
Et on en reparlera cet été quand on aura fini la saison et qu'on n'aura plus forcément besoin de toi. Et encore aujourd'hui, toi, c'est le moins bon des trois. Et ça fait la transition sur le point, moi, qui me réjouit vraiment. Et c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a ça, c'est que les trois meilleurs joueurs et quasiment les trois joueurs qui nous font gagner les deux derniers matchs, face à deux vrais. On n'a pas joué, sans leur manquer de respect, on n'a pas joué Luton et Sheffield. Hein. Les Wolves, c'est une équipe plus que solide. Si vous regardez le classement, nous, on n'en parle jamais, ils sont juste derrière nous. Hein. Et ils sont devant Chelsea, ils sont devant Newcastle, sûrement. Ils doivent être plus ou moins au même niveau que Brighton, ils sont juste là derrière. Et West Ham, c'est une équipe. Les trois gars qui nous sauvent, c'est trois gamins. Donc, un qui vient d'avoir 21 ans, et les deux, Kobbie Mainoo, qui a 18 ans, et Alejandro Garnacho, qui a 19 ans. Et premièrement, on ne se rend pas compte de la dinguerie quand même. Si vous allez regarder les autres clubs, il y en a peu qui ont leur 6, leur 8, leur attaquant de pointe et leur ailier droit titulaire qui ont moins de. Bon, maintenant il a 21 ans, mais qui ont 20 ans au moins. Qui ont 21 ans au moins, il y en a très peu, les équipes compétitives. Ces trois joueurs qui sont. Sur le dernier mois, tu peux discuter que c'est les trois meilleurs joueurs qu'on a.
Bah, t'as Mainoo qui prend le trophée du joueur du mois et Garnacho qui prend les deux derniers avant. Donc.
Ouais, et Højlund qui est sur. Il a marqué, j'ai dit avant, hein, sur les quatre derniers matchs qu'il a joué en première ligue, c'est quatre buts, deux passes décisives. Donc lui, il est aussi en feu. Et où je veux en venir aussi avec ça, c'est que moi, ça me fait énormément de plaisir. Garnacho, je l'ai déjà dit dans le podcast, j'ai un peu plus de doutes. Dans le sens où c'est sûrement celui qui a le plus haut plafond. Mais il va falloir bosser et tout. Dire que Mainoo, moi, je trouve que c'est dingue d'avoir un tel niveau à son âge-là. Et
Højlund, le gros plus qu'il a, c'est qu'il est bien entouré. Il a Lisandro derrière lui, Varane, Casemiro, Bruno, il peut lui apporter quelques conseils. Mais tu vois, ils sont bien entourés. Quand tu vois Garnacho qui avait fait la saison qu'il avait faite avec les jeunes, où bah, début de saison, prise de poste de Ten Hag, on ne l'avait pas vu du tout, parce que bah, apparemment à l'entraînement, c'était pas trop ça. Il s'est mis à bosser. Il arrive en retard, même je crois qu'il n'était pas forcément. En fait, je pense qu'il s'est dit bon, bah, je suis à Manchester, il y a Ronaldo, j'ai fait une super saison avec les jeunes, j'ai gagné la Youth Cup. C'est bon, j'ai ma place dans l'effectif, j'ai pas besoin d'en faire plus que ça. Et il a vu que ça marchait pas. À l'époque, Ronaldo était encore là, donc je pense qu'il a dû copier sur son idole. Et là, bah, là pareil, hein, rouler jeunesse, et il enchaîne les titularisations, il enchaîne les buts, trophée du joueur du mois du club. Donc c'est tout bénef que ce soit pour lui et pour nous. Hein.
Après, moi, j'avoue que Garnacho, dès que je suis un peu d'accord, des trois, c'est celui qui me fait le plus peur parce que j'ai l'impression, c'est une impression, c'est peut-être mauvaise et j'espère vraiment me tromper. Et je vais être optimiste et je vais me tromper. J'ai l'impression qu'il a un côté individualiste qui pourrait gâcher complètement son talent, se cramer bêtement alors que.
C'est pas du tout une impression.
Ouais, c'est pas une impression.
C'est les ailiers modernes qu'on a faux pieds qui veulent rentrer pour tirer. Rentrer pour
le problème,
tirer,
c'est que en réalité.
J'ai l'impression à gauche, quand il joue à gauche, il me rend fou. Parce qu'il fait... Mais quand il joue à droite, lui, il va pas forcer sur son côté droite. Alors oui, il va.
Bah, toujours... Regarde aujourd'hui quand même.
Oui,
le but, il se met sur le pied droit pour tirer pour pied gauche à Gerd. Ouais, à Gerd, là. Mais je veux dire, il, même à droite, il a quand même ce truc de forcer. L'avantage, c'est qu'il est habile des deux pieds. Mais il a quand même ce truc de forcer, rentrer, tirer. Ça marche, tant mieux. Mais tu vois bien que Højlund, on en parlait Højlund l'autre fois, il commence à craquer. Bah, parce que ce soit à gauche ou à droite, et il n'a pas de ballon. Et ça fait partie de.
Mais à droite, il commence à en avoir.
Oui, non, bien sûr. Et puis.
C'est une prise de conscience. Après, je suis plus ou moins d'accord sur le fait que c'est celui qui me fait un peu plus. Pas peur, mais où je prends le moins. Mais en fait, où je voulais aussi en venir, en parler de ces jeunes-là, parce que les trois sont déjà en place. Et c'est pour ça aussi que je demande vraiment une purge totale de tous les joueurs qui n'ont pas le niveau dans ce club. Parce qu'on a une génération qui a encore gagné, j'en ai déjà parlé une ou deux fois, les U18 de United qui sont sur 14 victoires sur les 14 matchs de championnat. Là, ils viennent de battre à la suite City, Liverpool, Arsenal avec des joueurs hyper jeunes. Et on a un vivier C'est la meilleure génération qu'on ait eue depuis.
Mais tu peux préciser qu'uniquement offensivement. Je n'ai pas l'impression que défensivement.
Non, mais on a deux latéraux qui sont très bons. Défense centrale, c'est peut-être un peu plus différent. Mais en fait, où je veux en arriver là, c'est que ces joueurs-là, l'année prochaine, ils ne sont pas dans ton effectif. Pas d'accord.
Pas encore, oui.
Peut-être Ethan Williams, qui a 18 ans. Qui est,
peut-être en pré-saison. Peut-être tu les vois un peu en pré-saison.
Oui, mais en fait, où je veux en venir, c'est que la dernière génération qu'on a eue qui était talentueuse ou vue comme talentueuse et qui a floppé.
Celle sous Wenger.
De Raven Merrison.
C'est quand même celle de Gomez, Chong, Brandon Williams et.
Mensah, tout ça, là, ouais.
Et en fait, cette génération-là, au même âge, était largement en dessous de celle qui est arrivée maintenant. Je sais que je fais beaucoup de bruit et tout. Sur le nombre qu'il y en a, il y en a peut-être 5 qui vont réussir. On est d'accord. Mais on parle d'une équipe qui roule sur tout le monde. Alors que les trois quarts, ils ont 16 ans face à des U18. Et si vous regardez les matchs, c'est vraiment c'est vraiment très, très impressionnant. Et tous les fans, tous les suiveurs chez les jeunes du pool en Angleterre l'affirment que c'est une génération qui est très, très impressionnante.
J'espère qu'ils ne vont pas arriver avec un boulard qui fait qu'ils ne passeront pas les portes.
Il y en a, ce sera le cas. C'est des jeunes.
Ten Hag est le bon coach pour ça. Je trouve qu'il arrive bien à cadrer et les lancer au bon moment.
Où je veux en arriver, c'est qu'une des raisons pour laquelle la génération Greenwood, Chong et compagnie, Greenwood, Chong, Gomez et Williams, une des raisons pour laquelle ils ont raté la transition, c'est parce que Manchester ne sait pas gérer ça. Et parce qu'il ne faut pas oublier que Angel Gomez ne jouait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gars comme Lingard et Andreas Pereira à sa place. Que Chong ne jouait pas aussi, parce que sur le côté gauche, il y avait aussi Lingard qui jouait, parce qu'il jouait tout le temps les deux. Ou Amata qui n'était pas à sa place, donc qui était encore un top joueur.
Du respect pour Lingard, il vient de signer à Séoul quand même, c'est un gros club.
Et que Brandon Williams aussi, il a commencé le match, il a commencé, puis après il n'a pas pu enchaîner et donc il n'a pas joué. Et donc, je n'ai pas envie que cette génération-là, plus les Kobbie Mainoo, les Garnacho et les Ouimin, qui sont hyper jeunes, Kobbie Mainoo, il pourrait être dans cette génération-là. Ça veut dire la dinguerie quand même. On ne se rend pas compte qu'on a un numéro 8 qui joue 6-8 de 18 ans, qui est titulaire.
Pour résumer, je pense que si on avait encore Ole Gunnar Solskjaer, Mainoo, il ne sort pas.
Ah non.
Parce qu'il te fait passer tous les autres, Casemiro, Eriksen, Van de Beek, Eriksen, McTominay, pardon. Il te met tous les mecs possibles, mais il t'aurait pas mis un jeune.
Tu vois, par
au
exemple,
milieu, en tout cas, un poste si important.
Tu vois, par exemple, là, c'est pour ça que je veux que tous ceux qui n'ont pas le niveau, on a vu qu'ils n'ont pas le niveau, je veux qu'ils dégagent du club.
Après, ce n'est pas forcément vrai, c'est lui qui met Greenwood.
Oui, bon, parce que Greenwood
c'était un talent. Et puis, on n'avait pas d'ailier droit, on n'avait pas Anthony, on n'avait pas Garnacho.
Tu vois. Mais Greenwood, quand il est en jeune, il faut se rendre compte que c'est vu comme la prochaine star mondiale.
Ouais, c'est vrai.
On parle même pas de. Garnacho, il a une hype, mais à côté de Greenwood, d'ailleurs, Greenwood
ouais, c'est générationnel, bien sûr, lui, c'est générationnel.
Greenwood, il pète les couilles. Il pète les couilles parce qu'il avait tout. Et c'était censé être lui, mais il pète les couilles. Bref. Mais voilà, en fait, j'ai pas envie que ce soit comme les autres années. C'est-à-dire que moi, toi, Amad Diallo, c'est bon. Par Chola Shortire, c'est bon. Dégage, j'ai pas envie que tu prennes des minutes à ces jeunes-là. Des Joe Gill, des Charlie McNeil, et je vais rajouter aussi des Christian Eriksen, des Scott McTominay, des.
Ils sont plus jeunes.
Ah, mais.
Oui, mais
t'as quand même besoin de.
Oui, non, ouais. Attends, mais
pour moi, je trouve que si tu vends McTominay, je sais pas, est-ce que tu vends aussi Eriksen en parallèle?
Oui.
Pur. Parce que t'as Amrabat, je sens qu'on va pas le garder, et c'est les infos qu'il y a. Donc au bout d'un moment, t'as quand même besoin d'un. Regarde, l'exemple parfait, c'est l'hécatombe de blessures qu'on a eu. Tu vas pas mettre des jeunes en Ligue des Champions
non,
mais on va recruter.
Ce que je veux dire, je veux pas que tu les vendes tous l'année prochaine.
Cet été. Non, j'ai compris, mais...
Je veux qu'il y ait pour chaque... c'est-à-dire, je veux qu'il y ait deux joueurs offensifs, deux joueurs au milieu de terrain et des défenseurs, si possible, qui puissent se battre pour être dans cet effectif-là et avoir des minutes. Et je veux pas que ces minutes soient là. Pellistri peut aller... Non, je vais être poli. Pellistri peut rester où il est là-bas. J'ai pas envie que Pellistri, quand il revienne, parce que c'est un joueur moyen, nul, il prenne des minutes à cette génération-là qui peut se développer. Ouais. Et Forson, alors j'y crois pas, mais bon, il est plus jeune, ou Joe Gill, tout ça. J'ai pas envie que cette génération qui était vraiment pas ouf du tout, et les vieux qui sont là depuis longtemps, on sait, j'ai pas envie que sur 2-3 ans, parce que là, je te parle de gars qui ont 16, 17, 18 ans, donc ce sera d'ici 2-3 ans, J'ai pas envie qu'ils soient pris, que leur place soit prise par des gars qu'on sait qu'il n'y a pas eu le niveau. Parce que c'est ce qui s'est passé depuis, je ne vais pas dire 10 ans, mais depuis 5-6 ans, chez les jeunes, chez nous. En fait, ce qui est bouché, c'est que vous rentrez dans cette première équipe et ce n'était pas bouché pour les bonnes raisons. Ce n'était pas bouché comme quand la Masia sortait des super, des top talents, mais qui ne pouvaient pas jouer parce que tu avais Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, David Villa et compagnie. C'est bouché, on a quand même... Aujourd'hui, c'est facile de dire que Chong et Gomez ont été des échecs. Et ça a été des échecs aussi parce qu'ils n'ont quasiment pas joué quand ils avaient plus, quand ils étaient beaucoup trop forts pour les juniors et pas encore assez forts pour Manchester. Ils n'ont quasiment pas eu leur chance. Je me rappelle d'un match d'Angel Gomez où il avait été excellent. C'était sur qui, ça? C'était pas Mourinho, ça, non?
Le Gunnar Solskjaer, son dernier match, Wigan.
Je sais plus contre qui c'était. C'est possible sur la Gunnar Solskjaer. Et en fait, c'était un match au septembre, octobre, dans ces eaux-là. Et Pereira n'était pas là. Et d'un coup, Pereira, il revient. On a Mohamed qui n'est pas le bon gars pour critiquer Pereira, mais Pereira était claqué chez claqué. Et il revient, il était mauvais avant. Gomez fait un bon match et il n'a plus jamais rejoué. Et j'ai envie qu'on laisse cette chance-là. Et c'est pour ça que, je te parle de la génération qui arrive, qui est très talentueuse, mais même sur ceux qui sont déjà en place, c'est-à-dire que. Moi, j'ai envie qu'on achète un ailier, mais pour concurrencer, pour mettre la concurrence, parce qu'il faut aussi du tournus. J'ai envie qu'on achète un BU, mais un BU de complément. Je n'ai pas envie qu'on achète un nouveau, je n'ai pas de nom, je vais dire Sesco, pour dire Sesco, il n'y a aucune rumeur et tout. Un autre gars du même âge qui devrait se battre pour une. Je veux qu'on développe ces joueurs. Mais nous, alors il va falloir remplacer Casemiro à côté. Il faut laisser une chance à ces gars-là qui ont déjà prouvé, eux, qu'ils pouvaient jouer et trouver enfin. J'espère qu'avec la nouvelle. Trouver enfin un moyen pour que notre centre de formation soit optimisé. Et j'entends Mark Goldbridge qui disait ça aujourd'hui, surtout ceux qui étaient Ten Hag out. Il disait il y a au moins un truc que je ne comprendrai pas, c'est que tout le monde est hyper content de Garnacho et c'est-à-dire tout le monde trouve que Garnacho et Mainoo, c'est incroyable. Et là, ce n'est pas Ten Hag qui a lancé les jeux, bizarrement, tu vois. Et par contre, parce que Hamad n'a pas joué une minute ou parce que Pellistri, son agent, il s'est pris pour un cow-boy alors que le gars, il ne sait pas jouer au foot, les deux, ils n'ont pas joué. Donc, juste parce que Pellistri et Hamad n'ont pas joué ou ne jouent pas, il y a certains qui veulent que Tenagi parte.
Et donc, moi, ce n'est pas pour ça que je veux qu'il parte. Non, pas pour
non,
ça.
Je dis pas toi. Non, je ne dis pas toi, mais j'ai vu ça sur Twitter encore aujourd'hui, malgré une victoire 3-0. Parce qu'Hamad n'a pas joué et qu'Anthony est rentré, ah non, il faut dégager cette
faute. Non, je suis patriote, mais non, Hamad, pour le moment, il a...
Et
de toute façon, Hamad, il faut être réaliste. Tant que tu as Rashford qui est sur son côté qui ne bougera pas, le à côté, tu as Garnacho, non, Anthony.
Hamad, c'est l'autre côté,
et on l'a dit
manque. C'est Anthony,
oui, mais, l'autre côté. Non, mais d'accord, mais vous avez bien vu que de toute façon, cette année, nos ailiers, ils font gauche-droite. Ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Je sais pas une critique. J'apprécie que les ailiers peuvent switcher. Le fait est, c'est que parce qu'on a même vu un petit peu, ça pas beaucoup mais un petit peu, on a même vu Rashford à droite 2-3 matchs, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, quand tu pars du principe que t'as Rashford qui est toujours sur le terrain, le turnover il se fait que sur un poste en ailier. Et actuellement t'as Anthony, t'as Garnacho, et il y aura peut-être Mount.
Ah, quelques matchs, c'est pas non plus.
Rashford sort quand même un peu. Et le problème, toi, pour Hamad, qu'on peut prendre comme exemple, d'un gars qu'on a complètement foiré son intégration. Pas de chance, il s'est blessé aussi, ça fait partie.
C'est exactement ce que j'allais dire. Ça, ce qu'on disait tout à l'heure sur Mount, c'est que lui, sur sa bonne saison l'année dernière avec Sunderland, à la pré-saison, je crois qu'il ne l'a pas faite.
Le premier match. Non, le deuxième match, il se blesse.
Et après, puis... parce qu'à la base, il était passé devant Pellistri dans le turnover, entre guillemets.
Et puis, il y a un autre...
Mais il se blesse, donc pas de chance.
Il y a autre chose aussi, les gars. On est éliminé de 2 compétitions sur 4.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que là... on regarde même tout à l'heure, hein, les changements, il n'en a pas fait tant que ça. Je crois qu'il en fait 2 parce que, un, c'est McTominay pour Mainoo. Et sinon, le deuxième, c'est. Il a quand même fait Lindelof show à la fin.
Oui, à la fin, pour faire ce que c'est un peu chaud.
Tu vois, où je voulais aussi en venir, c'est parler du fait que, oui, c'est d'ailleurs le titre du podcast, l'avenir avec les générations qu'on a est meilleur. C'est-à-dire qu'on voit quand même qu'ils ont engagé des coachs qui étaient compétents. Et bizarrement, ils arrivent à former des gens. C'est bizarre. Et on a enfin des jeunes, peut-être, qui sont excitants. On a énormément de jeunes qui sont excitants dans la U18. Et même, c'est pour ça qu'il faut faire le ménage de ceux qui n'ont pas le niveau, qui ont déjà 20 ans. Quoi. Et quand tu vois Hamad Diallo, je ne sais pas s'il a le niveau ou pas. Je l'ai vu à Sun. Quand je l'ai vu avec nous, je l'ai toujours trouvé très limité. Quand je l'ai vu à
Glasgow. Pour moi, non.
Là, les quelques minutes qu'il a montrées Ok, mais c'est trop peu.
Et c'est
Il n'a
timide,
pas assez
mais
joué.
après,
Faut pas savoir, les gars, il
faut le
n'a pas
juger
joué.
sur plusieurs matchs, mais je pense qu'il y a un plafond de
Et
verre.
en plus, ces jeunes, alors tu disais, t'es dans les jeunes, il y en a beaucoup qui ont une grosse tête, qui ne vont pas réussir et tout. Hein. Dans la génération là dont je parle tout le temps, il y en a sûrement même les joueurs que je préfère, des chez Alassi ou des gars comme ça. Et sûrement eux, parce que c'est déjà des stars qui vont arriver avec une grosse tête et ça ne va pas fonctionner. Ça, c'est sûr. Mais tu vois, il est même passé derrière Forson, Amad Diallo. Donc.
Après, Amad, on peut lui dire, sans l'avoir vu jouer, il y a déjà un petit manque de calcium quand même. Ça.
Ouais,
Ah,
attends,
pourtant, il a fait
moi,
ses gammes en
mais,
championship, donc.
ouais, et en manque de calcium, ok, mais je le trouve bien plus fort physiquement
Que Pelistri. Pelistri, tu
Ah
souffles,
ouais.
tu souffles, il tombe. Hein.
Mais
On
Pelistri, il
parle
a un
d'un
gros
gars
manque de calcium. Amad, c'est un
qui est
petit
pas là,
manque
les
de manque
gars.
de calcium.
On parle d'un gars qui est pas là, quand même. Quel manque
Et
de respect.
du respect pour Kakito.
juste
Ah
avant de finir après avec juste avant de finir après avec le point bon, assez rapide sur la blessure de Lisandro Martinez, deux choses qui me font toujours plaisir, c'est quand Ten Hag fait rentrer Anthony à la 87e minute. Comme ça, ma statistique de nombre de matchs sans but et sans assist augmente facilement. Et quand je vois qu'il a fait 65 minutes, qu'il a la pire note sur OneFootball de toute son équipe et qu'il est sorti sans but et sans assist.
On l'a prêté dans un club qui joue le
Oui.
maintien, malheureusement. Je sais pas si c'est le meilleur pour lui. Hein.
Je vais mettre une balle gratuite. C'est gratuit parce que j'aime bien le joueur, mais bon, au moins lui il joue. Van de Beek, il est même pas dans la liste en Conference League. Hein.
Apparemment, ça se
Ouais,
passe déjà mal.
donc, ouais, bah, ouais, c'est comme on a dit le dernier podcast,
Je
la
réagis
gestion
pas.
des prêts qui est La gestion des prêts est catastrophique. Mejbri qui fait du Mejbri. Bref, mais bah, toi, Mejbri, je veux plus le voir moi dans ce club. Cet été, on a vu, ça va pas le faire. Tu le vends. Comme le fait très bien Chelsea ou même City. City, ils ont vendu des gars hyper talentueux où tu te dis ah ouais, bah ils ont et qui ont réussi après. Tout le monde. Bah,
Nous,
Sancho,
on a, t'as l'impression qu'on a toujours, et c'est Woodward qui a mis
c'est
ça en place,
Woodward.
que ce
Ben, c'est
soit
ça que j'allais dire. Ouais.
au niveau, tu sais, quand on prolongeait les joueurs pour pas faire perdre leur valeur ou pour les garder au cas où il y a un
Jones,
acheteur
Young.
potentiel, eh ben, au niveau des jeunes, j'ai l'impression qu'on se dit toujours, ah, faut les garder, on sait jamais, ils pètent, on peut le vendre de max de fric ou à la rigueur, on a la prochaine pépite. Mais sur tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure, il y en a très peu qui ont percé.
Mais
Donc.
déjà, il y en a très peu qui ont joué, en fait, tout court. Et
Déjà,
tu vois.
donc il y a toujours deux. Ah, mais si on le vend et que ça marche ailleurs, eh ben, j'ai l'impression qu'ils ont commencé à comprendre parce qu'ils mettent des pourcentages à la revente, des clauses de rachat. C'est déjà un pas dans le bon
Oui,
sens.
bon, sur des joueurs, des clauses, ouais, des
Oui,
clauses qui
mais au
sont
moins ils le font tout
dégagées,
le temps, alors
mais.
qu'avant ils ne le faisaient pas.
Totalement. Par contre, toi, et après, on peut clôturer là-dessus. Pour moi, le meilleur exemple, c'est City, là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'espère qu'Omar Berda nous a mis ça. Et l'exemple parfait, c'est Roméo Lavia. Bon, là, il est blessé depuis. Bah, il a quasiment pas joué cette année. Hein. Il a joué 32 minutes parce qu'il s'est blessé. Roméo Lavia, qui était vu comme un bon talent. City a identifié. Bah, il joue au même poste que Rodri. Pas de chance. Ils ont reçu une offre de Southampton à 23 millions, bah ils ont accepté. Et puis voilà.
Ouais, mais
Et
nous, on n'a pas ce genre d'offre.
nous, on n'a pas ces offres. Nous, le plus cher, c'est Elanga à 15 millions. Et Garner.
Et encore, on se bat pour avoir ce type d'offre. On les a pas, malheureusement.
Est-ce
Donc voilà.
est-ce
Parce
qu'on
que c'est
parle de
le
la dernière
Tarif
vidéo
United.
d'Elanga ou pas? Vous avez vu la dernière vidéo d'Elanga? Ouais, je vous laisserai aller regarder, ça me
Ouais,
ferait
mais c'est pas
plaisir.
du football.
Il
C'est bien
a
fitness,
sorti.
etc. C'est bien. Hein. Sûrement que
C'est
c'est
du
très.
Rashford en pré-saison, c'est ça? Ah ouais, on n'est pas loin. On
Ouais.
essaie l'idée.
Moi,
Après,
je veux du football. Après, c'est très
voilà.
bien.
Après,
Vraiment, c'est
il
très bien ce qu'il fait. Hein. Je critique pas.
ouais, il a toujours été fit. Après,
À
je me
son
moque,
âge,
mais j'aimais bien
franchement,
Langa
c'est
et il
très
a un
bien.
bon physique. Je sais juste pour la
Mais
rigolade parce
au
que.
football, c'est pas ça. Donc
À la
après.
Marelle, c'est bien ce qu'il a fait.
On va peut-être clôturer ce podcast sur des
Sur
choses
la mauvaise nouvelle, ouais.
de moins fun. Hein. C'est la sortie sur blessure de Lisandro Martinez.
Ouais, on en a un
Donc,
peu parlé.
on attend encore les résultats. Ça sent quand même.
Le
Ça
genou.
sent pas bon.
Ouais, ça sent
Comme je
pas
disais
très
tout à
bon.
l'heure, j'ai pas l'impression que ce soit un ligament croisé.
Mais il faisait quand même de grosses grimaces,
Ouais,
hein.
non, dans le sens où c'est peut-être pas une rupture totale. Parce
Bah,
qu'il avait l'air de
ligaments,
pouvoir
il n'aurait
poser le
pas pu
pied.
marcher. Hein.
Enfin, si tu
Ouais.
compares
Rupture,
la
il n'aurait pas
sortie de
pu.
Van de Beek et la sortie de Lisandro, Van de Beek, sa jambe, elle était flasque. T'avais l'impression qu'il n'avait pas le contrôle de
Arrête de dire ça. Je vois Adama, il a une larme là. Arrête.
Et Lisandro, tu vois, il a essayé de forcer.
On l'a tué.
En fait, ça veut rien dire. Hein. Mais en tout cas, j'ai un petit espoir pour Lisandro.
On a tué un vrai joueur de football. Ça me tue.
On peut rester sur Lisandro ou... Parce qu'en vrai, si Lisandro est out. Vraiment, on l'avait dit l'année dernière, hein. son importance est plus grande que celle de Casemiro. Hein.
Oui.
Oui,
bah,
oui.
C'est le joueur majeur, hein. C'est le joueur numéro 1 hein, pour
ce
moi.
Qui est
pour
bien
moi, c'est le joueur
qui
numéro 1
sur la pas bien aussi. C'est bien qu'on ait un joueur important,
ah, bah après...
mais de devoir baser toute une saison sur un joueur, s'il n'est pas là, c'est la catastrophe, c'est pas bon non plus. On reste Manchester United.
Je pense pas qu'on basé notre saison sur lui, c'est juste que après c'est les qualités naturelles du joueur, tu vois.
Bien sûr.
Techniquement, c'est un défenseur au-dessus de la moyenne, il te fait
mais on doit en avoir
Antoine,
deux,
le disait
trois,
très bien.
Comme ça en fait.
Il te fait mon remonter le bloc de 10 15 20 mètres juste par sa qualité technique. Donc si en plus tu rajoutes Casemiro devant lui, c'est bénéfique.
Et par sa vitesse, et c'est pour moi le joueur le plus important aujourd'hui dans notre effectif. Messieurs, j'ai dû éteindre la caméra parce que je dois recharger mon téléphone et je n'ai pas pris le bon chargeur. Donc. c'est les aléas des podcasts en voyage. Mais par contre, et je pensais à ça quand j'ai vu ça, j'ai dit, Adama, toi tu dis toujours que ce n'est pas une excuse, les blessures. Et en
oui,
fait, pour moi, il y a deux choses. Pour moi, c'est une excuse pour les coachs, pas une excuse pour les clubs. C'est-à-dire que les coachs, ils font ce qu'ils ont.
Oui.
C'est-à-dire que perdre Martinez quand tu dois faire rentrer un Lindelof ou un Maguire ou un Varane, bah en fait,
on n'en a pas parlé, mais il a failli nous remettre dans le match.
Ouais. Donc c'est compliqué. Par contre, donc les coachs ou comme Klopp, quand Matip et Van Dijk se blessent, bah en fait, il peut rien. Lui, c'est une excuse pour lui. Par contre, c'est pas une excuse pour les clubs parce que les clubs doivent avoir les joueurs derrière et leur avoir ramené les joueurs justement pour pouvoir continuer à jouer le même football. Et ça me fait un peu penser à ce qu'on a eu au milieu de terrain, où tu vois le drop de qualité. Tu as Casemiro qui n'est pas là, tu dois jouer McTominay. Et donc, en plus du fait que ce ne soient pas les mêmes joueurs. Et donc, bref, sur Martinez, c'est un gros coup dur, ça me fait vraiment chier pour lui. Et le problème, c'est que, où je voulais aussi en venir sur les blessures, c'est que bon, Lisandro, ce n'est pas de chance, hein, parce que le premier, c'est une fracture, là, c'est sur un mauvais geste. Toi, ce n'est pas des blessures musculaires où tu peux te dire, bon, bah, c'est une mauvaise préparation, c'est des joueurs injury prone.
C'est pas comme Mason Mount, par exemple.
Ouais.
Exactement. Mais par contre, tu vois quand même que, et ça, c'est un problème du club, et ça, pour moi, ils sont 100% responsables. Les gars, la majeure partie de notre effectif, les joueurs clés que le club a décidé de mettre en place, c'est des joueurs injury prone de ouf. C'est-à-dire que tu prends Varane, c'est censé être ton meilleur défenseur central, il a toujours été blessé. Lisandro Martinez, ce n'était pas le cas, pas de chance. Tu prends Luke Shaw.
Pas d'accord, hein. T'as Bruno, le contre-exemple parfait.
Oui, mais c'est le seul.
Il joue tous les matchs.
Oui, mais c'est le seul. Luke Shaw, il est tout le temps blessé. Casemiro,
Anthony, 100 millions, il n'est pas blessé.
Maguire aussi, il n'était pas blessé. Ouais. Maintenant, il commence un peu à se blesser, mais il ne se blessait pas.
Oui, mais
c'est quand il se blesse, quand il joue plus. C'est quand il est plus tiré, c'est là qu'il se blesse.
Dans tes cas.
Arrêtez, parce que pour aller dans le sens d'Antoine, je sors la carte magique, je sors la carte martiale.
Non, mais Martial, c'est différent. Parce que
ça fait 50 ans qu'il est là, lui.
Mais toi, quand tu commences l'année, tes joueurs clés du début de saison, c'est Martinez, Varane, Casemiro, Shaw, Rashford, Bruno. D'accord. C'est ceux qui sont vus dans. C'est les leaders de ton effectif au niveau technique et importance de joueur. Dans cette liste-là, tu as Martinez qui sortait une grosse blessure, Varane qui est tout le temps blessé, Luke Shaw qui est tout le temps blessé, Casemiro qui a quand même pas mal de blessures et qui a 31 ans maintenant, et Rashford qui se blesse quand même chaque année. Chaque année, il a des trucs, il a le dos, l'épaule, il a toujours quelque chose quand même. Et donc, pas de chance. Le stress. Donc ouais, bah, en fait, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on va attendre. On va attendre les résultats, mais... si vous êtes croyant, c'est le moment de prier.
Je veux juste préciser une chose. En fait, quand moi je parle de que les blessures ne sont pas une excuse, bien sûr, je suis conscient. En fait, si tu joues avec ton équipe type et quand tu joues avec ton équipe B, tu vas pas avoir le même rendement. Sinon, tu as un problème. J'en suis conscient. C'est juste que si tu travailles correctement, après, c'est vrai que nous, il y a un drop de qualité entre nos titulaires et nos remplaçants. Mais malgré tout, tu dois essayer de pratiquer le même football. Même si tu vas pas le faire de la même façon, tu vas pas le réussir, mais tu dois être dans cet état d'esprit-là. Après, je comprends, Ten Hag, il fait aussi avec ce qu'il a, il est aussi pragmatique, donc j'entends. Et c'est pas pour ça que je lui tape dessus. Il y a d'autres raisons sur lesquelles je lui tape dessus, mais oui, mais quoi qu'il en soit, les blessures ne sont pas une excuse. Ça peut expliquer une partie de résultats, comme l'arbitrage, ouais, mais ça sera jamais une excuse.
Après, non. Toi, pour cette année-là, quand même, c'est bizarre. Là. Quand maintenant, on a l'équipe type, bah, c'est 3 matchs, 3 victoires. Donc,
forcément.
Bon, dans un des matchs…
Invaincu en 2024.
Oui, bah parce que… Mais, et donc, ça, c'est pour n'importe quel club. De toute façon, tu seras… Il n'y a aucun club où, quand tu perds 3 de tes meilleurs joueurs, tu es autant bon. Par contre, où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est le job du directeur sportif dès cet été et l'année prochaine d'arrêter d'acheter des noms et d'acheter… Par exemple, donc, tu te mets avec le coach, tu te dis, bon, je te prends un jour. Tu veux, t'as Hoylund, donc tu veux une doublure de Hoylund, donc on va prendre quelqu'un qui est beaucoup moins cher, qui est peut-être plus vieux, qui peut donner l'expérience, qui apporte quelque chose qui peut s'apparenter à ce que fait Hoylund. Après, c'est l'attaquant de pointe, donc c'est peut-être le seul poste où tu peux te dire que tu veux un profil différent. Mais bon, tu prends au milieu de terrain, si tu veux remplacer, si tu gardes Casemiro et que tu veux quelqu'un derrière lui en 6, tu te dis, bon, on va prendre quelqu'un qui a le même prototype que Casemiro. Et même chose sur les côtés, alors que nous, tu regardes nos doublures, tu as les latéraux à droite, c'est Wan-Bissaka, l'autre c'est Dalot. C'est deux extrêmes.
Complètement pas deux extrêmes en profil. C'est pas du tout pareil.
Les défenseurs centraux, les profils entre Martinez, Maguire, Lindelof et Varane, les deux seuls qui ont un profil similaire, pour moi, c'est Varane et Lindelof qui peuvent se rapprocher. Au milieu de terrain, tes solutions en 8-10, tu passes de Meynou à Eriksen, à McTominay, à Bruno et à Mand. Bon, Mand n'a pas joué encore quasiment. Mais, et tout ça. Et sur les ailiers, on n'avait juste pas de joueurs. Quoi. Donc, et BU, on n'a aucun joueur. C'est-à-dire que là, tu veux faire souffler Hoylund.
Bah, tu peux pas.
Tu mets Rashford en pointe.
Tu mets Rashford en pointe. Et donc, ça va être un problème. Et, ouais, et la blessure de Lisandro me fait peur parce que c'est. Quand il est là, on ressort le ballon beaucoup mieux. On voit enfin Onana commencer à utiliser un peu plus ses pieds. Et surtout, on peut jouer plus haut. Donc, on peut avoir un pressing plus haut. On peut prendre un peu plus de risques avec le ballon.
Et puis, ouais, il prend des risques. Il te trouve des passes dans les intervalles. Tu fais gagner du temps et de la rapidité.
C'est exactement ce que j'expliquais en fait en pré-saison. Avec le recrutement de Onana, quand t'as Martinez, si tu fais des schémas pour la ressortie de balle, c'est totalement ça. Malheureusement, on n'a pas pu le voir au début de saison. Là, on commence un peu à le voir. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop taper sur Onana. Bien sûr qu'il n'a pas été bon avec sur sa ligne, mais il va nous apporter.
Ça, c'est sûr. Mais donc, voilà, donc on vous tiendra au courant sûrement la semaine prochaine lors du podcast des résultats de la blessure de Martinez. On espérait enfin avoir son retour, mais bon, je pense qu'il risque quand même. J'espère que c'est pas grave, mais même si c'est pas grave, 3-4 semaines.
Au moins, j'espère juste saison pas terminée, quoi. Ça serait con en février et 2 années de suite où sa saison se termine. Bon, surtout que sa saison c'est encore pire puisqu'elle a pas vraiment commencé. Mais...
Et surtout lui, c'est vraiment, tu peux même pas trop en vouloir. C'est vraiment pas de chance, quoi. Le premier truc, bah, c'est une fracture du pied, tu dis bon bah voilà, pas de chance.
C'est ce que je disais, c'est pour ça aussi que je suis entre guillemets pour moi pas super pessimiste, parce que sa réaction, au-delà du fait que ce soit grave, je pense c'est surtout la frustration, une rechute à la cheville, plus là encore une autre blessure. Il se dit putain, je vais encore être out un petit moment. Je pense c'est surtout de la frustration. J'espère en tout cas avoir raison, parce que si j'ai pas raison, si j'ai tort, ça voudra dire que c'est une longue absence et on sera dans la merde.
Surtout que notre prochain match, et on va clôturer le podcast là-dessus, c'est face à Aston Villa, qui viennent d'en mettre 5 à Sheffield. Aston Villa, qui est une équipe qui nous convient plutôt bien, donc on verra, on en parlera lors du prochain podcast. En tout cas, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Un petit pronostic, ça fait longtemps.
Ouais. Un petit pronostic. Victoire 2-0.
On joue à Villa Park.
On va faire un clean sheet chez eux, ouais.
Ils seront revanchards. Parce que comment on les a battus ?
Ils vont laisser des espaces.
Avec Lisandro 2-0, sans Lisandro, je vois un 2-2 ou un 2-1. Ouais, je vois un 2-2. J'aimerais bien continuer cette série de victoires parce que franchement là on est bien parti. Il faut
match nul 1-1.
Ouais, moi c'est pareil, match nul 1 partout. Ouais. C'est vraiment.
Je sais pas si c'est d'être en déplacement, mais j'ai cru entendre que tu étais le plus optimiste. Donc peut-être d'être à l'hôtel, que c'est ça qui me fait. J'ai des mauvaises vapeurs dans le coin, donc c'est pour ça que.
Ah bah moi, l'optimiste de base, t'as bien changé.
Non,
hein.
Non, mais non, c'est réel. Je suis devenu réaliste, j'ai changé. Maintenant, je suis devenu réaliste. Je suis optimiste sur la Côte d'Ivoire, c'est bon, c'est plus heureux.
Merci le Maroc.
Donc, c'est comme ça que se termine ce 50e podcast. Allez, je vous invite de nouveau à rajouter, à faire un petit commentaire, un petit abonnement. On arrive à 750. Hein, ça, je vois que de vous embêter à chaque podcast avec ça, ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas juste à nous follow et tout. Et à activer les notifications aussi si vous êtes déjà abonné, parce que on a remarqué que sur les deux derniers podcasts que pas tout le monde recevait notification. Donc, même si vous avez les notifications d'activer. Donc, faites attention si vous voulez, bien sûr, avoir les notifications d'activer de YouTube. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se revoit dès la semaine prochaine pour fêter une 4e victoire de suite. Bonne soirée et bonne semaine à toutes.
Bonne soirée, salut.